BFM Business. Toute l'info éco en 60 minutes. L'heure H.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On est ensemble pendant une demi-heure. Dans un instant, on écoutera un spécialiste de l'aérien qui nous parlera des difficultés que rencontre Ryanair avec des grèves, que ce soit au Portugal mais aussi au Royaume-Uni. Et puis aussi pour aborder XL Airways, la compagnie française qui cherche 20 millions d'euros d'ici la fin de l'année. On fera également un point sur les marchés avec Antoine Larigauderie. Des marchés qui sont dans le vert puisqu'on a un CAC 40 qui gagne actuellement 0,5% à 5 415 points. En attendant le discours de Jérôme Powell, le patron de la Fed qui va s'exprimer tout à l'heure. Et tout ça, c'est très attendu par les marchés. En attendant, il est midi et c'est le journal BFM Business.
BFM Business, le journal.
En attendant, on va à Biarritz où se déroule le G7. Beaucoup de sujets seront abordés entre la guerre commerciale, l'Iran, le Brexit, la taxe GAFA, sans oublier le climat. Tout ça, c'est des sujets délicats. On retrouve sur place Guillaume Poll qui est depuis le G7 envoyé spécial pour BFM Business. Bonjour Guillaume. Emmanuel Macron espère un sommet le plus consensuel possible, mais ça risque d'être compliqué entre Donald Trump d'un côté et Boris Johnson de l'autre.
Oui, bah, de toute façon, Étienne, ça ne sera pas un sommet consensuel, ça on le sait déjà, parce que les dirigeants dont vous parlez, ils viennent à Biarritz avec des idées bien forgées et bien décidées à les imposer. Déjà Donald Trump, qui a déjà sérieusement bousculé les deux G7 précédents, et qui a fortiori arrive avec l'étiquette de président en campagne, qui ne vient ici finalement que pour s'adresser à sa base électorale. Donc on l'attend encore inflexible, notamment sur les questions commerciales, alors que ses partenaires vont le sommer de lever un petit peu le pied, évidemment, sur les sanctions avec la Chine qui commence déjà, ça se voit dans les chiffres à peser sur l'économie mondiale. Alors, est-ce qu'il va leur répondre de manière posée ou alors est-ce qu'il va se lancer, comme il en a l'habitude, dans une surenchère en ouvrant par exemple un nouveau front commercial avec l'Europe, pourquoi pas pour taxer le secteur automobile allemand, ça fait longtemps qu'il en parle. Est-ce qu'il va répondre à Emmanuel Macron et à sa taxe GAFA en concrétisant la menace de taxer les importations de vins français ou d'autres pays. Ce sont des sujets sur lesquels on l'attend, évidemment. Et puis Boris Johnson, évidemment, lui aussi est très attendu. Lui va devoir être inflexible sur la question du Brexit. Vous savez qu'il veut toujours renégocier l'accord de sortie de l'Union européenne conclu sous Theresa May. Alors on a senti Emmanuel Macron peut-être un petit peu plus enclin à en discuter, mais quand même ferme aussi sur quelques lignes. Mais avant-hier, il ne vous a pas échappé qu'Angela Merkel s'est montrée, elle, beaucoup plus ouverte à une renégociation. Ce qui est normal, parce que l'Allemagne exporte beaucoup plus, donc elle aurait beaucoup plus à craindre d'une éventuelle sortie de Royaume-Uni sans accord fin octobre. Donc est-ce que Boris Johnson ne va pas essayer aussi de jouer sur les divisions, la divergence de point de vue sur ce dossier entre la France et l'Allemagne? Ça aussi, ça fait partie des questions auxquelles on attend des réponses dans les 24 prochaines 48 heures.
Et tout ça, ça mène à penser que ce G7 ne sera pas très consensuel, Guillaume.
Ah, mais de toute façon, il ne sera pas consensuel. Vous savez que d'habitude, il se termine toujours le G7 par une déclaration commune finale, qui en général n'est pas très fracassante, mais qui a au moins le mérite d'afficher un consensus de façade entre les différents signataires. Là, on est parti pour n'avoir aucune déclaration commune, ce qui serait une première depuis 1975, année de la création de ce qui était alors le G6. C'était du temps de Valéry Giscard d'Estaing. Ça serait un symbole extrêmement fort. Alors, on le devra a priori une fois de plus à Donald Trump qui de toute évidence ne signera rien d'ici lundi, ni sur la lutte contre le réchauffement climatique, ni sur le multilatéralisme. Mais ça serait quand même un signal très fort et ça nous laisse penser que ça sera d'ores et déjà difficile pour Emmanuel Macron, maître des lieux, maître de cérémonie, d'arriver à un accord. Nous pensons tous ici qu'il va surtout chercher à réfréner les ardeurs de ces deux dirigeants hors normes au cours des prochains jours ici à Biarritz précisément.
Merci Guillaume Poll en direct de Biarritz avec Éline Dany. Et puis il y a aussi l'Amazonie qui s'invite au G7 de Biarritz puisque les incendies qui ravagent la forêt amazonienne provoquent une inquiétude grandissante au sein de la communauté internationale. Le président brésilien demande aux puissances étrangères de ne pas s'inviter dans les affaires intérieures du Brésil. On voit tout cela avec Delphine Liu.
Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale. Les Nations Unies, Emmanuel Macron ont interpellé le président brésilien et Paris a donné rendez-vous aux membres du G7 qui se tient ce week-end à Biarritz pour parler de l'urgence de la situation. L'Irlande, de son côté, s'est dit prête à bloquer l'accord avec le Mercosur pour forcer le Brésil à protéger la région. Des interventions qui n'ont pas plu à Jair Bolsonaro, des interventions que le président brésilien considère comme de l'ingérence étrangère. Il a même accusé Emmanuel Macron d'avoir une mentalité colonialiste. Il instrumentalise, selon lui, une question intérieure au Brésil et aux autres pays amazoniens, avec un ton sensationnaliste qui ne contribue en rien à régler le problème. Réponse de l'Élysée, la France est légitime en s'exprimant sur l'Amazonie car c'est un pays amazonien. La Guyane a une frontière avec le Brésil et une partie de l'Amazonie est sur son territoire.
Voilà, et puis on aura ici Emmanuel Macron qui va se rendre ce week-end à Biarritz, mais juste avant, il va recevoir des chefs d'entreprise à propos des inégalités, puisque 34 entreprises mondiales telles que AXA, Engie, L'Oréal ou encore Renault s'engagent dans une charte sur les questions des inégalités, mais aussi sur les questions environnementales. C'est une première. À l'origine de cette mobilisation, on retrouve Emmanuel Faber, c'est le patron de Danone, qui a été missionné par Emmanuel Macron en amont du G7, le tout dans l'idée d'étendre cette initiative à l'échelle mondiale. Et puis aujourd'hui, c'est une journée sous haute surveillance. Une journée sur haute surveillance pour les investisseurs. Ils attendent qu'une chose, c'est le discours de Jérôme Powell tout à l'heure à 16h, heure française. Le patron de la BCE, Mario Draghi, va également s'exprimer à Jackson Hole et il pourrait créer l'événement. C'est en tout cas ce que nous disait Aymeric Didet, c'est le directeur de la gestion chez Pergam.
Autant on a eu des réunions de Jackson Hole qui n'ont pas été des grands événements. On a eu 2010, on s'en souvient, qui avait été une grande année. 2019, ça sera peut-être une grande année, parce qu'on attend là aussi de voir ce que va faire la BCE. On est en fin de mandat également pour Mario Draghi. Donc clairement, on imagine qu'il puisse y avoir quand même quelques nouvelles qui sortent, à l'image de ce que nous a dit un des membres de la Banque Centrale Finlandaise, qui dit attention, on va faire beaucoup de choses en septembre.
Donc, il y aura des surprises, il disait même.
Exactement, on va avoir des surprises. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire un nouveau QE avec des rachats d'obligations à hauteur de 50 milliards, certains anticipent. Ils peuvent baisser encore une fois les taux de dépôt de la monnaie européenne auprès de la Banque Centrale. On pourrait encore les ramener en dessous, sous 0,40 par exemple. Donc, clairement, il y a des possibilités. Est-ce nécessaire? Ça, c'est quelque chose d'important ou pas? Donc, le discours va être très, très regardé. On le voit, le contexte est compliqué. Regardez ce qui se passe en Allemagne avec la promesse d'un nouveau plan de relance de 50 milliards, donc un plan de relance budgétaire. Donc, c'est quand même important de voir que les gouvernements sont à la manœuvre. Donc, il n'y a pas de raison que la Banque centrale ne le soit pas également. Donc, là, il va falloir qu'on regarde clairement ce que vont décider les banquiers centraux, parce que c'est eux, quelque part, qui vont nous donner le sens du marché d'ici la fin de l'année, en tout cas.
Voilà, Aymeric Didet, directeur de la gestion chez Pergam. Détoba, des banques centrales qui pénalisent le secteur bancaire à l'image de BNP Paribas, qui envisage selon Reuters de supprimer quelques 500 postes en France dans sa filiale de services financiers aux investisseurs professionnels. Ça représenterait une baisse de 20% de ses effectifs. BNP confirme ses suppressions de postes sans pour autant confirmer les 500 postes en question. Et puis dans le même temps, en Allemagne, cette fois, on a Commerzbank qui prévoit de supprimer entre 1800 et 2500 emplois. Selon la presse outre-Rhin, le deuxième groupe bancaire allemand envisagerait de fermer entre 100 et 200 agences bancaires sur les 1000 qu'il dispose en Allemagne. Et puis il y a aussi la Société Générale qui réfléchit, selon Bloomberg, à l'avenir de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor. Une vente ou un rapprochement dans le secteur serait à l'étude. Lyxor qui gère aujourd'hui près de 151 milliards d'euros d'actifs. Et puis dans l'actualité des entreprises, on a également le titre Boeing qui hier a pris plus de 4% à la clôture sur le Dow Jones. L'avionneur a annoncé la reprise de la production de son modèle phare, le 737, au rythme de 52 exemplaires par mois dès février 2020. À ce jour, Boeing n'attend plus que le feu vert des autorités pour faire décoller le 737. Et puis, il y a aussi un gros deal dans le secteur du jouet entre le gérant Hasbro, qui va racheter le britannique E1 pour 4 milliards de dollars. Hasbro va ainsi se renforcer sur le secteur du marché des très jeunes enfants. On voit tout cela avec Virginie Cook.
Le géant américain du jouet Hasbro se renforce encore dans la production audiovisuelle. Il vient d'acquérir le studio Entertainment One, notamment connu pour Peppa Pig, un dessin animé destiné aux jeunes enfants très populaire dans les pays anglo-saxons. C'est l'acquisition la plus chère jamais réalisée par Hasbro qui débourse 4 milliards de dollars. Comme ses concurrents, le géant américain doit faire face à la crise du secteur du jouet. Sa stratégie est donc de se diversifier pour multiplier ses sources de revenus. Le groupe possède déjà les licences My Little Pony, ou Power Rangers. Il a multiplié ces dernières années les accords avec des studios de cinéma comme Paramount Pictures ou Walt Disney, une façon aussi de renforcer les ventes de jouets des personnages préférés des enfants au cinéma. Une stratégie de diversification qui touche tous les grands acteurs du secteur et qui s'avère en général payante. Lego a engrangé de gros succès avec sa licence Lego Film. Playmobil a également fait ses débuts sur grand écran cette année.
Et on termine ce journal avec un mot de musique, puisque depuis aujourd'hui minuit, la discographie complète de Jean-Jacques Goldman est disponible sur les plateformes de streaming. Jusqu'à présent, Jean-Jacques Goldman avait toujours refusé voir ses titres sur Deezer ou encore Spotify. Il faut dire que le streaming est en plein essor. Au premier semestre, 33 milliards de titres ont été écoutés. C'est 23% de plus qu'au premier semestre 2018.